OK, vu qu'on est rendu le dernier dimanche du mois, on s'est entendu que on faisait notre leçon sur un chapitre de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Aujourd'hui, on est au chapitre 2. Donc, le seul Dieu vrai et vivant. On a un chapitre, puis on a des paragraphes. Dans le chapitre, il y a des paragraphes. Donc là, on est encore en train dans le paragraphe 1. Donc on a fait la moitié la dernière fois, là, on fait l'autre moitié aujourd'hui. Et après, on va faire le paragraphe 2 et 3, et après, on va faire le paragraphe 3. Moi, j'ai sûr que quand on étudie une confession de foi comme ça, il y a vraiment deux façons de faire les choses. Ou on y va, puis on pèse sur le gaz, pour passer à travers, on dirait qu'on cherche à aller trop vite. Mais on n'apprend pas beaucoup comme ça. Moi, j'aime mieux y aller lentement, petit morceau par petit morceau. Petit morceau de... Quand on fait un gros puzzle, je pense qu'il y en a ici qui sont des amateurs de faire des casse-têtes, qu'on appelle ça. Il y en a des gros, là. Moi, je me souviens combien de temps on en faisait des gros. Pendant du temps avant d'avoir toutes les pièces, hein? Tu les mets une par une, d'un coup, là, l'image commence à se faire, t'en mets d'autres, l'autre image. Puis là, il y a eu un temps que tu mets tout ça ensemble, ça fait une belle grosse image. Mais quand on étudie la théologie, c'est exactement la même affaire. On n'apprend jamais toute la théologie d'un coup sec, on apprend ça par petits morceaux. Puis à force de mettre des petits morceaux collés sur d'autres petits morceaux, on finit par avoir, comme ils disent en anglais, « the big pictures » ou « la grande image ». Alors c'est bien important d'étudier la théologie. Vous avez dit qu'à partir dans quelques semaines, on va faire une série sur le mercredi soir, sur la personne de Dieu. J'ai commencé à lire le livre... Et je suis littéralement emballé. C'est bien fait, bien fait. J'essaie de vendre ma salade. Là, pour... c'est vraiment... Non, mais je dis ça, je suis sérieux. C'est vraiment très bien fait. C'est fait de façon systématique par quelqu'un qui a enseigné la théologie systématique pendant 40 ans. Ça, c'est le fruit de son travail. Et quand je le lis, là, je me rends compte que c'est vraiment le fruit de 40 ans. Il a vraiment fait un travail extraordinaire. Alors, c'est important d'étudier la théologie. Parce qu'il nous fait la remarque au début que plus on va connaître notre théologie, donc plus théologie, ça veut dire le discours sur Dieu, plus on va connaître notre discours sur Dieu, plus notre marche chrétienne va se refléter dans notre connaissance. Alors, il faut commencer par acquérir la connaissance, et après, notre marche chrétienne s'ajuste. Parce que plus on comprend qui Dieu est, ce qu'il a fait, plus notre marche chrétienne s'ajuste en conséquence. Et il faisait la mention au début, je la partage, parce qu'il disait, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, parler de théologie, c'est vu comme quelque chose de, ah, c'est pas pour nous autres, on comprend rien là-dedans, c'est stérile, c'est difficile. Il n'y a rien de plus faux que ça. Pourquoi le mot même théologie dit discours sur Dieu. Si on s'ennuie, quand on fait un discours sur Dieu, à quelque part, ça reflète qu'on a un problème sérieux dans nos vies. La théologie, ça devrait tout nous passionner. Tout. Et je vous le dis d'avance, cette série-là, je sais qu'elle va être bonne parce que ce que j'ai découvert déjà, j'ai à peu près 100 quelques pages de lu sur 600, une brique. Il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre sur Dieu. Puis quand on pense qu'à cause que ça fait 15 ans ou 20 ans ou 25 ans qu'on est dans une église, qu'on sait tout sur Dieu, on se met un doigt sur un œil jusqu'au... bien profondément. Alors on a besoin d'approfondir nos connaissances sur Dieu pour nous purifier. Alors on va simplement aujourd'hui, on va faire un très bref survol de ce qu'on a vu actuellement. Pour qu'on puisse se remémorer tout cela. Alors, quand on regarde, on va relire le chapitre, le paragraphe 1 du chapitre 2. Et après, on va faire des commentaires sur tout ce qui est dit. Mais alors, dans un paragraphe, la quantité de choses qui est dit sur Dieu, c'est phénoménal. Là, même. Alors, la confession de foi, là, on peut la lire dans une après-midi. Mais je ne suis pas sûr qu'on va l'avoir compris dans une après-midi, parce qu'il faut aller un petit peu plus, il faut approfondir. Alors, on lit le paragraphe 2, la Confession de foi baptiste de Londres, 1689, le chapitre 2, le paragraphe 1. Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté immuable et très juste pour sa propre gloire. Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocente d'aucune façon le coupable. On lit un paragraphe de même, mais il faut les prendre mot par mot. C'est pour ça que si je dis, si on le fait rapidement, on dit « OK, on l'a lu, on est correct ». Mais il faut aller un peu plus en profondeur. Donc, la première chose qu'on regarde dans le texte, c'est la singularité de Dieu. Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. Alors, on a regardé ça un petit peu la dernière fois. Il est indépendant. Quand ça dit « il existe en lui-même et de lui-même », ça veut dire que l'existence ne lui a pas été donnée par un autre. Il l'a toujours eu. Il existe en lui-même et de lui-même. Autre chose qu'on mentionne dans le texte, c'est la question de l'incompréhensibilité. Là, il faut faire attention. Il faut vraiment nuancer. Dieu dit qu'il est incompréhensible exhaustivement. Autrement dit, on ne peut jamais comprendre Dieu dans sa totalité, dans sa globalité, parce qu'il est trop grand. Mais Dieu nous donne la chance d'être capable de le connaître. Donc, l'incompréhensibilité. On peut comprendre une partie de ce qu'il est par les Écritures, mais on n'ira jamais au fond de ce qu'il est. C'est ce qu'on veut dire par l'incompréhensibilité. Autrement dit, je connais Dieu, ça fait bientôt 40 ans. Je le connais plus là qu'au début. Normal, j'ai étudié, j'ai lu, bon, j'ai appris des choses. Mais après 40 ans, est-ce que je peux dire que je connais tout sur Dieu? Loin de là. Parce que quand je vais arriver au ciel, je vais continuer à le découvrir. Et l'éternité elle-même ne suffira pas pour que je le découvre, parce que je ne le découvrirai jamais. Exhaustivement. Exhaustif, ça veut dire de façon complète, entière, absolue. Je ne connaîtrai jamais Dieu de façon absolue. Jamais. À cause du fait de son infinité, puisqu'il est infini, tout ce qui concerne sa personne, c'est quelque chose qui va nous prendre l'éternité. On va les découvrir, puis on va les découvrir, pour avoir des hâches. Oh! 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 Et ça va être ça, l'éternité. Découverte de Dieu, qui va être une source inépuisable de joie, de satisfaction, de plaisir. Quand on se met à réfléchir à ça, je me souviens une fois, j'étais à Rouen, puis on faisait un sermon, puis c'est venu sur le sujet de l'incompréhensibilité. Je ne sais pas si c'était dans l'intérieur. Il y avait une femme qui était venue de l'extérieur. Puis je mentionnais l'idée qu'on ne découvrira jamais Dieu, comme ça, puis j'expliquais ça. Elle est venue me voir après, elle dit, « J'ai jamais entendu ça. » Elle m'a dit, « C'est beau, c'est beau. » Elle venait d'apprendre que Dieu était tellement grand que le découvrir, c'est possible par les Écritures, mais qu'on ne verra jamais la fin de le découvrir puisqu'il est infini. Alors, quand on parle d'incompréhensibilité, oui, on peut le comprendre, mais... Et après ça, ça nous dit qu'il est... on parle de sa spiritualité. Il dit qu'il est esprit très pur, invisible, si on le sait, Dieu est invisible, incorporel, ça veut dire qu'il n'a pas, il ne vit pas dans un corps, et indivisible, ça veut dire qu'on a plus... sa nature ne peut pas être divisée, et impassible, c'est-à-dire qu'il ne change pas. L'immuabilité de Dieu ne change pas. Il a toujours été de la même façon, il est aujourd'hui et il sera de même pour l'éternité. Alors, on avait vu ça rapidement, on avait vu des versets. On avait vu aussi qu'il était immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. C'est difficile à comprendre, ça. Il habite dans la lumière, puis c'est pas accessible à nous. Tout ce qui concerne Dieu, ça, c'est toujours des notions qui sont un petit peu connues de l'homme à cause qu'on connaît certaines choses de Dieu, mais c'est toujours des notions qu'on a besoin d'apprendre. C'est pour ça que je vous dis tantôt comment on a réétudié la théologie pendant 40 ans, 50 ans. Le monsieur que je vous parle, le livre que je vous parle, il est non seulement étudié toute sa vie, la quantité de livres de théologie qu'il a lu est très impressionnante. Quand tu lis ça, il te donne des notes de bas de page. Je dis, mon Dieu, il a passé sa vie à faire ça. Je suis convaincu, je le ferais venir ici ce matin, puis je dirais, mes amis, je connais Dieu un petit peu, mais il est beaucoup plus grand que ça. À quelque part. Quand on parle d'infinité, immuable, qui ne change pas, immense, ça veut dire que éternel, qu'il a toujours existé. Dieu est le seul éternel. Nous, on a eu un commencement et on va vivre éternellement. Satan a eu un commencement et il va vivre éternellement dans le sens de la punition. Alors, il y a juste Dieu qui est éternel dans les deux directions. Il a toujours existé puis il existera toujours. Nous, on a un début, mais on va exister toujours. Alors, il y a seulement Dieu qui est éternel. Quand on parle d'incompréhensible, on a donné tantôt tout-puissant. On n'a aucune idée jusqu'à quel point Dieu est puissant. Moi, c'est quand que je revise un petit peu la Genèse, qu'on a fait de Genèse, on a parlé un peu de la grandeur de l'univers. Et il a créé ça comme ça par sa parole. Et quand quelqu'un rentre dans les détails de la création, que tu es capable de faire ça avec ta parole, et il a créé l'univers, et là, ça nous donne une petite idée de ce que c'est la toute-puissance de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est infiniment, il est capable de faire des choses beaucoup plus que même notre plus grande imagination. Des fois, là, on se mettrait à réfléchir sur la toute-puissance de Dieu, on voudrait, disons, trouver quelque chose de vraiment extraordinaire. Dieu dit, je suis plus puissant que ça. Il dépasse toute capacité de conception de puissance. Quand on parle de Dieu, là, il faut vraiment prendre conscience, parce qu'on le prie, là, pour ça, je reviens que les soirées de prière, c'est important de prier Dieu tous les jours, à genoux. C'est important de venir en culte ensemble le mercredi, prier Dieu. C'est important parce qu'il est tout-puissant, il écoute nos prières. Des fois, on perd tellement le contact de ce que Dieu nous dit. Il écoute, il nous entend et il agit sur chacune de nos prières. Pourquoi on prie pas? Pourquoi on prie si peu? C'est un mystère, dans le fond. Là, comme... C'est un mystère. Un mystère, oui. Tout-puissant, infini à tous égards, très saint. Autre chose, la sainteté de Dieu. Qui peut comprendre c'est quoi la sainteté de Dieu? Les archanges, dans Ésaïe 6, décrivent. Ils se cachent les yeux, ils se cachent les pieds. Ils sont pas capables de... Ils crient entre eux autres, « Saint, 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 l'Éternel. » La sainteté de l'Éternel, si Dieu nous faisait en sorte qu'on se présenterait devant lui comme ça, là, sans préparation, on mourrait instantanément. La sainteté de Dieu est tellement grande que ça nous ferait mourir. À quelque part, des fois, on oublie ça. On rentre très sage, très libre, absolu. Alors, on était rendu là, on a parlé d'incompréhensibilité. Maintenant, on va parler de tout-puissance, parce que ça dit, l'attribut fait référence à ce qu'on appelle l'omnipotence. Omni, ça veut dire tout. Potence, ça veut dire puissance. Donc, la toute-puissance, omni, ça veut dire tout, toute la puissance possible, imaginable, il l'a. Alors, une définition qui serait adéquate de la toute-puissance de Dieu serait la suivante. Dieu est tout-puissant et peut faire tout ce qu'il veut. Puisque sa volonté est limitée par sa nature, Dieu peut faire tout ce qui entre en harmonie avec ses perfections. En d'autres mots, la question suivante, Dieu est-il capable de créer un rocher si lourd qu'il ne pourrait pas le soulever lui-même? Ça, là, c'est le genre de question qu'on peut dire qui est stupide. Parce que Dieu, ce n'est pas une question légitime, Dieu peut faire tout ce qui entre en harmonie avec sa nature et avec sa personne. Disons qu'on dirait toute puissance, on dirait Dieu peut-il pécher? Non. On dirait il n'est pas tout puissant. On ferait-tu une mauvaise déduction? Ben oui, on ferait une mauvaise déduction parce qu'il peut faire tout ce qui est en harmonie avec sa nature et sa personne. Dans Matthieu 19, verset 26, ça dit, Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, c'est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Il est infini à tous égards. Tout ce que Dieu est, est infini. Vous prenez chacun de ses attributs, là. Ce matin, je relisais un petit peu ce que notre théologien que je vous parlais tantôt, je disais juste que ce qui est écrit sur la bonté. Quand tu dis que c'est un bon théologien, là, il te fait monter à des hauteurs, que même quand on pense qu'on sait c'est quoi la bonté de Dieu, il te fait voir des aspects que tu n'as pas peut-être pensé, que tu n'as pas peut-être vu. Tu aurais intérêt à voir, parce que plus tu vas connaître qui Dieu est dans sa réalité. Très saint. On a parlé d'Ésaïe 6, versets 2 et 3, tantôt, on va le lire. Des séraphins, ça c'est les anges les plus saints, les plus élevés dans la hiérarchie des anges. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. De deux, il se couvrait sa face, et de deux, il couvrait ses pieds, et de deux, il volait. Et l'un criait à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, sa gloire remplit toute la terre. La sainteté de Dieu comporte deux aspects, l'un relié à sa transcendance et l'autre à sa dimension morale. On va vous expliquer ce que ça veut dire. L'aspect de la transcendance nous enseigne que le Seigneur est absolument séparé et différent de toute sa création. Disons qu'on parle de quelqu'un qu'on connaît, un chrétien, vous allez le rencontrer, vous allez dire, c'est l'homme le plus sanctifié que j'ai jamais connu. Donc, il y a un aspect de sainteté dans sa personne, dans sa vie, dans son comportement, mais jamais, quand Dieu dit qu'il est transcendant par rapport à la sainteté, c'est qu'il n'y a aucune créature, aucune comparaison possible, ni avec les anges, ni avec les hommes. Il est au-dessus et ça ne se compare pas. Sa sainteté ne se compare pas avec celle des hommes. Et quand on parle de sa dimension morale, ça nous montre que Dieu est absolument séparé de toute forme de mal. Dieu ne pense pas mal, ne parle pas mal, n'agit pas mal. Toujours à la perfection. Nous, on ne connaît pas ça parce que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est juste du péché. On n'est pas habitué à ça, une sainteté pareille. Même quand on vit avec quelqu'un de très sanctifié, on va quand même voir des failles dans son comportement, dans sa pensée, façon de manière de parler, dans sa manière d'agir. Dieu, jamais. Sa sainteté est absolue et ne se compare avec aucun être humain. Quand on parle de sagesse, la sagesse de Dieu n'a aucune limite non plus. Ça se réfère à la qualité de sa connaissance. Alors, la sagesse est perceptible de façon particulière dans l'exécution de ses décrets de la Providence, toutes les circonstances. Ça donne bien parce qu'on est en train d'étudier la Providence, sur ceux qui sont là le mercredi. La Providence, c'est tout simplement l'ensemble des circonstances que le Seigneur envoie dans chacune de nos vies à tous les jours. Et Dieu dit dans sa parole que ce qu'il envoie dans sa providence, dans nos vies de tous les jours, c'est très sage. Mais nous, on chiale tout le temps. Alors, c'est comme on est en train de dire à Dieu, la circonstance que tu m'envoies, là, c'est pas ça que j'ai besoin. On se pense plus sage que lui. On est capable de faire des péchés énormes. Quand Dieu dit, il est toutes les circonstances qu'il envoie dans la vie de chacun de ses saints, c'est très sage. Qu'est-ce qu'on devrait faire à tous les jours? Dieu nous envoie une circonstance difficile. Merci Seigneur, c'est ça que j'ai besoin parce que tu me dis que c'est sage. Pas Ben là, j'avais bien besoin de ça, moi, là. N'est-ce pas, on se reconnaît-tu quand on dit ça? J'avais bien besoin de ça, moi, là. Romains 16, verset 27. À Dieu, dis-je, seul sage, soit gloire éternellement par Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 et 7. Nous proposons une sagesse entre les parfaits, une sagesse, dis-je, qui n'est point de ce monde, ni des princes de ce siècle qui vont être anéantis. Mais nous proposons la sagesse de Dieu, qui est en mystère, c'est-à-dire cachée, laquelle Dieu avait, dès avant les siècles, déterminée à notre gloire. Quand il dit, quand on dit aussi dans le texte de la confession de foi, très libre, Dieu ne fait rien parce qu'il est obligé. Nous, on en fait un paquet de choses parce qu'on est obligé. On paye nos impôts parce qu'on est obligé. On paye des taxes parce qu'on est obligé. On a plein d'obligations autour de nous. Dieu ne fait absolument rien parce qu'il est obligé. Il est absolument libre de tous ses décrets et de toutes ses actions. Psaume 115, verset 3. Certes, notre Dieu est aux cieux. Il fait tout ce qu'il lui plaît. Psaume 135, verset 6. L'Éternel fait tout ce qu'il lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Y a-t-il le contrôle sur le bord? Alors, absolu, ça veut dire que Dieu est autosuffisant. Dieu, s'il avait voulu, il n'aurait pas créé les anges, il n'aurait pas créé les hommes, puis il ne lui manquait rien. Quand on dit tout suffisant, il y en a qui pensent que Dieu t'a comme obligé de créer les hommes parce que non, il n'y avait pas besoin de personne. Les trois personnes de la Trinité étaient en parfaite harmonie entre eux. Il n'y avait pas besoin de nous. Il n'y avait pas besoin de créer ni les hommes ni les anges. Maintenant, on parle de souveraineté. Dieu est le roi des rois. On parle souvent de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. On dit, il est le roi des rois. Il ne dit pas, il est le roi des hommes. Il prend le plus élevé des hommes. Puis il dit, moi, je suis boss de lui, puis de lui, puis de lui, puis de toute la terre. Il est le roi des rois dans sa souveraineté. Isaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui sera à la fin, et d'avance ce qui n'aura pas lieu. Ce qui n'aura pas lieu, mon dessein, je dis, mon dessein subsistera, et j'exécuterai tout mon bon plaisir. J'annonce dès le commencement ce qui sera à la fin. On lit l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le livre de la fin. Ça fait longtemps que ça existe, l'Apocalypse. Les auteurs disent que ça aurait été écrit aux alentours de 95. L'an 95. Pas bien longtemps après que le Seigneur était parti. Il nous dit tout ce qui va se passer en images, en symboles, mais quelqu'un qui est habitué avec le langage des Écritures et qui n'interprète l'Apocalypse qu'à la lumière de tout ce qui est dit d'ailleurs dans les Écritures, le danger, c'est que souvent, on se fie trop sur les commentaires. Les commentaires, ça nous amène un éclairage. Mais le meilleur éclairage, comme la plupart... Moi, je me souviens, Arthur Pink, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et la dernière parole qu'il a dit avant de mourir, c'est « L'Écriture s'interprète par elle-même. Mm-hmm. » Sa dernière parole de sa vie. Puis s'il y a quelqu'un qui connaissait sa Bible, là, moi, à côté de lui, là, vraiment, là, c'était un homme qui connaissait sa Bible. Mais ça veut dire que quand tu lis un livre, tu veux le comprendre, la meilleure façon, c'est d'aller chercher ce que la Bible dit ailleurs sur le même sujet. La Bible s'interprète elle-même, ça le dit. Proverbe, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a fait toutes choses pour son but, et même le méchant, pour le jour du malheur. Éphésiens, chapitre 1, verset 4 à 6. Selon qu'il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité, nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables en son bien-aimé. On est agréable à Dieu, mais en son bien-aimé, en Jésus-Christ. Autre chose dont on parle dans le texte du premier chapitre, c'est-à-dire du chapitre 2, mais paragraphe 1. Il est amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Alors, les Écritures nous disent que l'amour de Dieu est infiniment haut, infiniment parfait. Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de se sentir aimé? Dans la vie, là, quand quelqu'un nous aime, on travaillerait, disons, pour un employeur, quand ton boss t'aime, on dirait qu'il est prêt à y en donner deux fois plus. On a besoin d'amour, on a besoin d'amour. Mais l'être humain aime, même le régénéré, aime et l'aime toujours imparfaitement. Dieu aime parfaitement, il nous dit qu'il nous aime, mais il ne nous aime pas avec des imperfections, il nous aime parfaitement. L'amour n'a aucun manquement, jamais, 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 jamais. 1 Jean, le plus grand amour humain n'est qu'un très faible reflet de l'amour de Dieu. Si on pense que... on sait c'est quoi l'amour humain. N'importe qui, on a vécu des choses dans l'amour. Nos parents, des fois nos amis, notre conjoint, notre conjointe. Mais comparativement, quand on dit un très pâle reflet, ça ne se compare pas avec l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, versets 8 à 10. « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu. » Pour nous, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est en ceci qu'est l'amour. Non que nous ayons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Plein de grâce. La grâce de Dieu est une faveur déméritée envers les hommes. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'ai redit. L'amour immérité, c'est l'amour, je vous donne 1 million, puis je ne vous connais pas, ben non, bon, vous allez dire, hé, misère, tu me donnes un gros montant là, pourquoi tu me donnes ça? On dirait qu'on n'est pas capable de recevoir un cadeau d'une importance telle, sans dire, pourquoi tu me donnes ça? Mais ça, c'est l'amour immérité. On ne le mérite pas, quelqu'un nous le donne pareil. Mais démérité, c'est que tu mériterais, par exemple, disons que tu as ton voisin. Il a passé son temps à tirer des roches dans tes vitres, à faire du mal à tes enfants, à faire juste du mal tout le temps. Tu pars un bon matin, puis tu cognes à sa porte, tu lui donnes une valise d'un million. Là, ce n'est pas une faveur imméritée, c'est une faveur déméritée. La grâce de Dieu, c'est ça. Dieu nous aurait dû nous condamner, nous faire vivre en enfer pour l'éternité, et à la place, il nous donne le pardon de nos péchés et il nous donne la vie éternelle. On ne comprend pas ce que ça veut dire de pardonner les péchés parce qu'on est sauvé de l'enfer, mais on ne comprend pas plus l'autre partie quand on dit qu'il nous donne la vie éternelle. C'est quelque chose d'une telle grandeur que même dans l'éternité, on n'aura pas compris encore. Parce qu'on va découvrir d'autres aspects de Dieu, de son amour, de sa grâce, et on va toujours être en extase, on n'en reviendra jamais. C'est le fun, à vous autres, là, rendu. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, très connu comme verset. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non en vertu des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Exode 34, versets 6 et 7. Ici, on a l'exemple de Moïse qui demande à Dieu de voir sa gloire. Et l'Éternel, dans le verset 6, ça dit, Exode 34, verset 6 et 7, « L'Éternel passa devant sa face et proclama, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce et en vérité, gardant la grâce envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité et la rébellion et le péché, et ne tenant nullement le coupable pour innocent, visitant l'iniquité des pères sur les fils, et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. » Seigneur nous dit qu'il y a miséricorde juste pour le juste, les générations qui vont le suivre. 1000! Autrement dit, tu es en train de nous dire que sa miséricorde, à partir du moment qu'il y a une lignée de saints ou de personnes qui est réconciliée avec Dieu, il y a miséricorde sur des milliers de générations. Puis il dit que ceux qui sont ses ennemis, eux, c'est 4 générations. Alors le mal va avoir des le mal que tu as fait peut avoir des répercussions sur 1, 2, 3, il dit même 4 générations. Plein de miséricorde. Dieu non seulement nous accorde ce que nous ne méritons pas, mais il ne nous envoie pas toujours les jugements que nous méritions, que nous méritons. Parce qu'actuellement, on est encore des pécheurs et à chaque jour, on commet encore des péchés, malgré du fait qu'on est sauvé. Le fait qu'il ne nous juge pas, c'est une miséricorde. Je fais référence à Raymond Perron, qui, à un moment donné, il était comme subjugué, on pourrait dire, littéralement, par la découverte du mot chesed en hébreu. C'est un concept qui est d'une grande, grande richesse, qui parle de miséricorde et d'amour et de toutes sortes de notions qui tournent autour de l'amour avec une multitude de facettes. Le mot chesed, je me souviens quand Madame la missionnaire est venue, Jackie Eno, on y a parlé, elle dit, puis elle connaît l'hébreu, elle dit, ah oui, elle dit, c'est vrai. Le mot chesed, là, quand tu le trouves dans toutes les dimensions de la Bible, ça parle de bonté, ça parle d'amour, ça parle de miséricorde, toutes ces choses qui sont rattachées autour de la personne de Dieu. Plein de miséricorde, elle ne nous envoie pas les jugements qu'on mériterait. Romains 9, verset 18. Ici, on parle de la miséricorde, de la souveraineté de Dieu dans qui il accorde la miséricorde et quand il l'accorde et pourquoi. Ça dit, ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Plein de patience. Je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté la patience de Dieu dans vos vues. Moi, je l'ai expérimenté souvent parce que j'avoue que ça y en prend beaucoup. Moi, souvent, je me compare à un petit âne. Puis je dis, Seigneur, ton petit âne, tu sais, un âne, hein, apparemment, c'est têtu. Hein? Mais moi, je me compare souvent à un petit âne. Je n'apprends pas vite. Puis ça prend beaucoup de patience au Seigneur pour enseigner à son petit âne. Puis je ne suis pas sûr que je suis seul dans les petites cahiers. Je ne suis pas sûr que je suis seul comme petit âne. Alors, on est bien têtu. Et quand le Seigneur nous dit qu'il est patient, avec un âne têtu, il faut que tu sois patient si tu veux le faire avancer, parce que lui, il est boqué, comme on dit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y ait du retardement. Mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun ne périsse, mais que tous se repentent. Dieu est patient envers chacun d'entre nous. Et ça dit qu'il abonde en bonté et en vérité. En bonté, psaume 145, versets 8 et 9, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et grand en grâce. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur tous ses ouvrages. » Non seulement il a compassion de ses enfants, mais quand il parle de tous ses ouvrages, ça veut dire que la compassion de Dieu, elle se reflète dans toute sa création, envers les animaux, envers les êtres même irrégénérés, souvent il a compassion d'eux. Il abonde aussi en vérité. Dieu est vérité, il n'y a rien de faux ou de non sincère en lui. Jésus dit pendant Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quelle phrase à méditer au moment où les religions prétendent toutes qu'ils vont aller au ciel par leur chemin. C'est clair. Jésus lui dit, je suis le chemin, pas un chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un dit qu'il va aller au ciel avec une autre religion, ben moi, je ne peux pas lui dire qu'il est vrai. C'est faux. Parce que je crois ce que Dieu dit dans sa parole. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Si tu ne vas pas au Père par Jésus-Christ, tu n'iras pas du tout. Mais c'est dur en ces temps d'écuménisme où tout le monde prétend que toutes les religions mènent à Dieu. Alors, si on n'est pas préparé, le piège s'en vient, j'en ai parlé, j'en reparlerai. L'écuménisme de la grande religion mondiale, c'est en chemin, c'est presque tout réalisé. Et je vous le dis, dans les prochaines années, on va voir une pression énorme qui va venir sur ceux qui vont dire que le salut ne peut venir que par Jésus-Christ. Je vous le dis, je suis sûr de mon coup. Parce qu'ils vont venir très intolérants, ils vont essayer de nous intégrer dans leur affaire, et si on ne veut pas, là, ils vont nous accuser de tous les maux du monde. Et la parole dit aussi, dans le passage, on a lu, qu'il était aussi justice. Donc, il pardonne l'iniquité, il pardonne la transgression et il pardonne le péché. Dieu peut pardonner à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. S'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui aurait accepté de subir le châtiment que j'aurais dû subir à ma place, puis s'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui aurait accepté de faire la loi, le décalogue à la perfection à ma place, je n'aurais pas pu avoir le pardon de mes péchés. Luc 7, versets 48 et 49. Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui même pardonne les péchés? » Pourquoi Jésus pouvait dire à cette femme-là, « Tes péchés sont pardonnés? » Parce que dans sa divinité, qui était dans un corps d'homme, savait qu'elle faisait partie des élus, et qu'il pouvait lui dire « tes péchés sont pardonnés » parce qu'il savait que lui, éventuellement, sur la croix, paierait pour les péchés qu'elle a accomplis. Et il savait que la parfaite justice qu'il accomplissait sur la terre était pour être mise sur le compte de cette femme-là. Alors c'est pour ça qu'il peut se permettre de dire « femme, tes péchés sont pardonnés ». Et il récompense aussi, comme ça dit dans le texte, ceux qui le recherchent avec assiduité. Ça, je pense que ça devrait nous parler. Est-ce qu'on recherche Dieu avec assiduité? L'assiduité, ça veut dire la permanence de la recherche. On le recherche continuellement, continuellement. Pas une journée. Même si on pense qu'on est avancé, on continue. On continue. Jérémie 29, moi j'aime beaucoup ce verset-là. Vous me chercherez et vous me trouverez après que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. C'est une promesse qu'il fait là. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me trouverez, écoutez le mot après, après. Vous me chercherez et vous me trouverez après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Ça vous parle-tu un peu? Est-ce qu'on recherche Dieu de tout notre cœur à ce point-là? Il dit, cherchez-moi, vous allez me trouver, mais après qu'il va avoir vu que toi, tu fais vraiment un effort pour te rapprocher de lui. C'est ça que ça dit le texte. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocent d'aucune façon le coupable. On va aller regarder quelques versets là-dessus. Néhémie, chapitre 9, versets 32 et 33. Et maintenant, ô notre Dieu, qui est le grand Dieu puissant et terrible, qui garde l'alliance et la grâce, que ce ne soit pas peu de choses devant ta face que toute cette souffrance qui est arrivée à nous, à nos rois, à nos chefs, à nos sacrificateurs et à nos prophètes et à nos pères, à tout le peuple depuis les jours des rois Assur jusqu'à ce jour. Ils disent, et tu es juste dans tout ce qui nous est survenu. Quand on lit l'histoire de l'Ancien Testament, des fois le Seigneur a jugé son peuple avec une très, très grande sévérité. Et ici, il dit, tu es juste dans tout ce qui nous est survenu. Autrement dit, il n'y a rien que le Seigneur a envoyé à son peuple comme punition ou comme châtiment dans l'Ancien Testament. Et que le peuple, après, qui ont réfléchi, ne dise pas « Et tu es juste dans tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec vérité, et nous, nous avons agi méchamment. » On pourrait-tu s'appliquer ça dans nos propres vies aussi, vous pensez? Psaume 5, versets 5 et 6, où on parle de haïr le péché. Les orgueilleux ne subsisteront point devant toi. Tu as toujours haï tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en abomination l'homme sanguinaire et le trompeur. Donc Dieu haït le péché. Mais nous, on pense qu'on sait c'est quoi haïr le péché. On ne sait pas beaucoup. Mais l'Éternel haït le péché d'une manière, on n'a pas d'idée. Et quand ça dit qu'il est innocent, nullement le coupable, tous ceux qui sont coupables, de quelque faute que ce soit, ayant manqué au commandement de Dieu, Dieu dit qu'il ne rendrait pas personne innocent, à moins qu'ils aient placé leur foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Ça dit, Nahum, chapitre 2, versets 2 et 3, « Le Dieu fort est jaloux, et l'Éternel est vengeur. L'Éternel est vengeur, et il a la fureur à son commandement. L'Éternel se venge de ses adversaires et la garde à ses ennemis. L'Éternel est tardif à la colère et grand en force, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. » Savez-vous que ce qui est un baume sur mon âme quand je pense à tout ce qui se passe à la terre? La quantité de méchanceté qui se passe à la terre, la quantité de voleurs que les gouvernements, les personnes qui sont... On les voit, ils ont des super, des grosses maisons, font des gros voyages, sont millionnaires. Il dit qu'il ne tient nul mal au coupable pour innocent. Un jour, tout va être dévoilé, puis ils ne pourront pas dire « je ne suis pas coupable ». Ils vont payer, parce qu'il dit qu'il ne tient nul mal au coupable pour innocent. Alors, comme on le disait au début du culte, ou c'est eux qui vont payer pour leur péché, ou c'est Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ, le paiement qu'ils vont avoir à faire, ça va être l'enfer pour l'éternité. Quelle notion incroyable, l'enfer pour l'éternité. La personne est placée dans ça, puis aucune consolation, toutes les douleurs du monde vont entourer, l'angoisse, le graissement dedans, la colère. Et au bout de 1000 ans, Dieu ne dira pas, « Bon, là, t'as assez souffert, tu peux sortir. » Il ne sortira jamais. Alors le péché, c'est beaucoup plus grave que nous, on le croit à première vue, à cause de la sainteté de Dieu. On a offensé un Dieu d'une sainteté qu'on n'est même pas capable de soupçonner. Quelles sont les applications qu'on peut faire? Je n'ai mis qu'une, mais une bonne. Implorons le Seigneur de nous donner la grâce de le connaître davantage, de l'aimer davantage, afin de mieux le servir et de lui apporter honneur et gloire. La prière fervente et l'étude de sa parole et de notre confession de foi contribuera certainement à ses buts. Consacrons-lui du temps et notre meilleur temps. On ne le fait pas tout le temps. Hein? Consacrer du temps au Seigneur dans la prière, dans l'étude de sa parole. Consacrer du temps, ça veut dire qu'on consacre du temps à plein de choses. Internet, des loisirs, tout ce que tu voudras. Puis bien souvent, au cours d'une semaine, on n'a même pas un quart d'heure à donner au Seigneur dans une journée de 24 heures. Ça devrait nous faire réfléchir. Il faut qu'il y ait de la prière fervente dans nous, et l'étude de la parole, et l'étude de la confession de foi, parce que ça va vraiment contribuer à ce qu'on aime Dieu, on le connaisse davantage, qu'on l'aime et qu'on ait le goût de le servir pour son honneur et sa gloire. Consacrons-lui du temps, et notre meilleur temps, il en est très digne, et nous serons richement récompensés par sa grâce et pour sa gloire. Amen.